1 Timothée chapitre 2, chapitre 2, versets 1 à 8 pour notre méditation de ce matin. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 8. En tout premier lieu, je recommande que l'on adresse à Dieu des demandes et des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Il faut prier pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille et paisible avec un parfait attachement à Dieu et une conduite entièrement respectable. Voilà ce qui est bon et agréable à Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. Car il y a un seul Dieu et il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, comme Jésus-Christ qui s'est donné lui-même comme rançon pour les libérer tous. Il a apporté ainsi, au temps fixé, la preuve que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pour cela que j'ai établi messagers et apôtres chargés d'enseigner aux non-juifs ce qui concerne la foi et la vérité. Je ne mens pas, je dis la vérité. Amen. Pour commencer, je vais vous rapporter deux phrases de Jésus qui nous feraient réfléchir sur, on va dire, le positionnement des chrétiens dans le monde. Je mets entre parenthèses le monde ici, le cosmos, la vie dans la cité, les autorités politiques, la vie en tant que citoyen, parce que, paraît-il, on nous accuse, nous les protestants, d'être trop discrets et qu'on ne s'implique pas trop à la vie de la cité par rapport à l'Église catholique. C'est une reproche qu'on nous a fait, et on le prend avec considération pour voir si cela tient la route, est-ce qu'il y a des choses à rectifier dans notre éthique chrétienne, protestante surtout. Voilà la première parole de Jésus à la suite de la discussion qu'il avait avec Pilate, justement face à l'autorité. Lors de son interrogatoire, rappelez-vous, Pilate lui a posé une question qui n'est pas du tout anodine. Dans Jean chapitre 18, verset 36, voilà le dialogue qui existait. Pilate dit « Es-tu roi ?» Et un peu plus loin, Jésus répliqua « Ma royauté n'est pas de ce monde. » Si ma royauté était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Entendez bien, je dis n'est pas de ce monde. Ma royauté est, si ma royauté était de ce monde, ma royauté n'est pas d'ici. La deuxième parole de Jésus est tirée de Jean, chapitre 17, versets 14 à 16. Dans la prière sacerdotale que Jésus avait faite pour ses disciples. « Ils ne sont pas du monde, » en parlant de ses disciples, « comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Vous avez remarqué peut-être la répétition. Je ne suis pas du monde, ils ne sont pas du monde. Ma royauté n'est pas du monde, ils ne viennent pas d'ici. Ce génitif d'origine, comme on dit en grec, marque d'où vient, qui sommes-nous, quelle est notre identité face à ce monde et quelle est notre place alors en tant que chrétien, puisqu'on a deux nationalités, ceux qui l'ont le savent très bien. On est citoyen du ciel et aussi nous sommes les citoyens ici dans ce monde. Et cette répétition souligne une identité ou une origine, non une marginalisation vis-à-vis du monde. Jésus n'est pas du monde, mais il a été envoyé pour le monde, vous voyez. Il ne se met pas à la marge de la société. Il ne marque pas une séparation entre lui et le monde, mais il marque son identité vis-à-vis du monde. C'est différent. En somme, Jésus n'est pas du monde, mais il s'est voué pour le monde. De ce fait, nous aussi, nous les chrétiens, si nous disons que nous sommes disciples du Christ, nous ne nous assimilions pas du monde. Mais en effet, on a été choisi pour le monde, même si nous ne sommes pas de ce monde. C'est une sorte de jeu de mots qui est utilisé par Jésus ici pour nous dire qui sommes-nous réellement. Alors, si je reviens à notre texte principal, je fais le lien à notre péricope. Paul exhorte Timothée, ainsi que la communauté dont il était responsable, de ne pas se mettre à l'écart de la vie politique. Et je mets entre parenthèses ici la vie politique, la gestion de la cité. Qu'on le veuille ou non, cela aurait un impact immédiat sur la vie de l'Église et sur la spiritualité des chrétiens, ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas vivre tous dans des monastères. On est au milieu de ce monde. Donc, toutes décisions qui sont prises dans ce monde, nous les vivons aussi. Nous subissons aussi les choses. Donc, Paul montre que la spiritualité a un lien très étroit avec la vie profane, la vie du monde. Il n'y a pas de séparation. On est dans le monde. Et Paul montre que la spiritualité ici, ce n'est pas quelque chose dans les nuages. Nous ne vivons pas dans les nuages. L'Église de Jésus-Christ s'inscrit dans la vie quotidienne des uns et des autres, ici-bas, dans le concret. Alors Paul exhorte Timothée d'avoir une sorte d'attitude de sentinelle spirituelle pour la cité. Vous êtes appelé à être vigilant et pour intercéder pour le monde. Vous n'êtes pas juste là pour critiquer le monde, mais vous apporterez votre contribution pour que cette cité puisse vivre dans les meilleures conditions. Alors Paul invite l'Église à prendre ses responsabilités, à ne pas fuir la réalité du monde, mais d'être présent. Paul invite l'Église à prendre de la hauteur, à être au-dessus de la mêlée. Et en plus, la façon dont Paul s'adresse à Timothée est avec une insistance. Regardez le verset 1. « J'encourage donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce. » Je reprends. « Des requêtes, des prières, des supplications. » Faire des requêtes, des prières, des supplications, cette répétition personnellement m'a interpellé, car ce n'est pas juste un style de phrase pour donner des synonymes à un nom, à un mot plutôt, mais toujours cette idée d'insistance. Il faut lutter, il faut insister, il faut la faire de façon récurrente jusqu'à ce qu'il y ait un résultat. Voilà les sentinelles. Les sentinelles, quand ils sont en haut, dans leur tour, ils ne peuvent pas dormir. Ils doivent regarder de loin si l'ennemi arrive. Et là, ils doivent crier, parce que la vie des gens en bas en dépend. Et ce n'est pas tout. On peut voir à travers la formulation de Paul ici, comme si derrière la phrase, il y a une idée de degré de prière. Si vous faites une requête, alors accentuez cela. Faites alors maintenant une supplication, c'est-à-dire vraiment une perspective de durée. Ce que je vais vous dire ce matin, c'est un aveu. Le Seigneur m'a brisé en préparant cette prédication, car depuis toujours, j'avais une fausse, et je l'avoue ici, j'avais une fausse idée, une position très différent de ce que Paul dit ici. J'avais la conviction qu'une fois que j'ai prié Dieu sur un sujet de prière qu'on m'a confié, que je l'ai fait une seule fois, ça suffit largement. Parce qu'il est Dieu, il n'est pas comme moi, il n'a pas besoin qu'on le rappelle à chaque fois. Rappelle-toi de ce que je t'avais dit 10 mois passés. Et même bibliquement parlant, c'est vrai. Même si nous ne demandons pas encore, il sait déjà tout ce que nous avons besoin. Jésus aussi a dit, il ne faut pas prier comme les païens le font pendant des heures et des heures, à rabâcher le même sujet. Alors, depuis que je suis pasteur, je me suis dit, non, je ne ferai pas ce genre de prière à chaque fois. Mais cette semaine, quand j'ai préparé ce texte, j'étais face à une situation où, comme le Seigneur me disait, tu t'es trompé, Jean-Luc. Alors, pourquoi est-ce que ce Dieu, qui connaît tout, nous demande d'adopter cette pratique, d'insister, de demander dans la durée? Pourquoi est-il sadique? La réponse se situe peut-être dans le mot « supplication ». Regardez bien ce terme. Les termes utilisés par Paul ici, d'abord il parle de requête, ensuite de prière, et enfin supplication. Vous voyez ici, il y a une forme de degré plus élevé, une forme d'évolution, d'intensité. Prier, ce n'est pas appuyer sur des boutons sur une machine et attendre tranquillement que les billets sortent du guichet. Parce qu'on a bien compris le mécanisme et on a suivi toutes les procédures à faire, alors on attend que les billets sortent. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Supplier, demander la faveur du donateur. Dans cette démarche, il y a une phase de brisement du soi. C'est-à-dire, quand tu pries, ce que Dieu est en train de faire, il te brise d'abord. Il brise ton orgueil. Il brise parce que, est-ce que c'est ton droit d'avoir cette réponse aujourd'hui? Tu te mets à genoux devant moi. Ce n'est pas parce que je suis sadique, mais pour que tu te rappelles, tu t'adresses à un Dieu. Tu n'as aucun droit sur moi. Je n'ai aucun compte à te rendre. Mais je te le donne quand même parce que tu t'es humilié. Supplie, supplier l'Éternel. On l'oublie parfois, ce type de rapport qu'on a avec Dieu. On aime bien de dire, oui, je suis ton frère, Seigneur, je suis ta sœur. Il est ton Dieu. Donc, la supplication pour moi ici, c'est une sorte de brisement que Dieu opère en moi d'abord. Et je reprends ce que j'ai dit précédemment ici. Ce n'est pas une humiliation, ni un écrasement, mais je trouve que c'est un moyen de façonner les enfants de Dieu comme le potier qui façonne le pot d'argile. Paul invite Timothée à prendre de la hauteur. Et Paul met en lumière la place très importante où Dieu nous a placés en parlant des autorités. Et c'est vrai que nous, en tant que citoyens, nous nous plaçons tous au même niveau des administrés. Ça, c'est vrai. Mais pour Paul, celui et celle qui intercèdent, tous ces gens-là se placent aussi, en quelque sorte, comme étant un médiateur de tous les humains, grâce à la médiation extrême qui a été faite par Jésus-Christ. On entre dans une dimension autre, un sacerdoce, que nous sommes comme des prêtres qui intercèdent pour les autres. Et à ce moment-là, il y a un effacement de notre personne au bénéfice des autres. Celui qui est intercesseur ne prie pas pour lui. Si vous regardez dans les livres des Lévitiques, le grand prêtre qui a été élu, qui a été choisi pour entrer dans le lieu très saint, prie pour le peuple d'Israël, mais pas pour lui. Et alors on se dit, et moi alors? Voilà le prix à payer pour être intercesseur. Ce n'est pas celui juste là, oui parce que moi je prie pendant des heures et des heures, mais évalue un peu tes prières, combien de pourcentage qui va vers toi et combien qui va vers les autres. Si on met deux sacs devant Dieu qui reçoit toutes les prières, je pense que le premier sac où il y a écrit ton nom est assez plein. C'est ça l'intercesseur, c'est ça ce que le Christ fait. Le Christ qui est à la droite du Père, il prie pour nous, mais pas pour lui. Il s'est effacé pour nous. Es-tu prêt à prendre cette place que Dieu t'a donnée? C'est pas évident. Il ne faut pas aussi oublier que ces personnes, soi-disant détenteurs de pouvoir, comme il est dit ici dans le texte, dans la NBS, il est dit « ceux qui occupent une position d'autorité, les politiciens, ceux qui nous gouvernent ». Paul, dans sa phrase, fait une sorte d'ironie. « Ces derniers croient détenir le pouvoir, mais ce qu'ils ne savent pas, ils sont eux aussi soumis à des forces au-dessus d'eux. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est toujours Paul dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Voilà ce que Paul a dit. « En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. » Vous savez tout ce qui se passe dans le monde actuel. Qui ces gens qui détiennent le pouvoir? La plupart fricotent avec le diable. Fricote avec le mal. C'est le mal qui gouverne le monde. Et nous, enfants de Dieu, nous subissons. Qu'on le veuille ou non, le monde, le cosmos est gouverné soit par des forces du mal, soit par les forces du bien, bien sûr. Et la question de neutralité est une utopie. Ça n'existe pas. Et c'est justement là que nous entrons en jeu. Nous ne luttons pas contre la chair. Nous ne luttons pas contre les gouvernements. Par contre, nous luttons contre ces forces du mal qui les orientent vers ces mauvaises pratiques. Et à travers ces requêtes, ces prières, ces supplications, il y a une image d'un combat, une lutte acharnée contre ces forces cosmiques. C'est pour cette raison que dans la liturgie, nous avons la partie intercession. Vous savez pourquoi on a mis ça dans la liturgie ? Et là, vraiment, cette dimension universelle. C'est là que l'Église se lève contre le monde et pour prier pour le monde, petit M. Mystique, la dimension qu'on a ici parce que nous luttons contre des forces qui sont supérieures à nous. Mais comme il est dit au verset 6, le Christ a déjà donné son sang comme rançon pour tous. Et donc, nous pouvons intercéder et lutter à partir de cette victoire que le Christ a donnée à son Église. Et il a confirmé cela avant de retourner auprès du Père. Voilà ce que Jésus avait dit, rappelez-vous. « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Ne l'oublie jamais avant que tu pries. Toute autorité lui a été donnée. Tout baptisé a reçu alors cette fonction de prêtrise. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, moi, nous sommes tous des prêtres. Tu as reçu un sacerdoce céleste. Dieu t'a placé au-dessus du toit du monde pour prier, pour supplier le Père d'intervenir pour le monde. Mais il est clair que nous n'allons pas éradiquer la misère du monde. Ce n'est pas le but. Jésus n'est pas venu dans le monde pour enlever la pauvreté. Mais notre présence dans le monde serait comme une petite ouverture d'un bout de ciel, quelque part là où tu habites, apportant une petite lumière dans ce monde ténébreux. Ça fait du bien de temps en temps, pour nos voisins, pour les gens que nous côtoyons. Sois un bout du ciel qui s'ouvre là où tu habites, là où tu travailles, là où tu vas à l'école, que le monde voit ce bout de ciel lumineux. Et je vais terminer par ce que Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, qui est si bien formulé. Lève-toi, brille, ta lumière arrive. La gloire du Seigneur se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre les peuples. Mais sur toi, le Seigneur se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière. déroie la clarté de ton aurore. Si vous faites cela, les gens vont venir vous suivre. Nous voulons connaître votre Dieu. En vous regardant, en vous écoutant, en vous suivant dans vos vies, quelle est cette force que vous avez? Ils savent de quoi vous vivez. Ils savent vos souffrances. Mais comment ça se fait que vous êtes toujours joyeux? Le monde n'a pas ça. Ils voudront savoir la réponse, puisque la lumière du Seigneur se lève sur toi. Amen. Thank you.